Encore un grand merci de cette invitation et puis d'avoir la chance de pouvoir tous vous rencontrer, échanger avec vous. Merci aussi pour ces deux présentations qui ont été faites ce matin, le travail très intéressant sur ce jeu des émotions, la place des psychologues dans la formation et bien des patients simulés dans la formation aux étudiants. C'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible. Un grand merci de cette présentation et de cet intérêt qui se pose de cette manière. Je trouve que c'est une manière vraiment aussi nouvelle et pertinente que de pouvoir travailler cette interprofessionnalité et cette culture en équipe. Donc je pense qu'il y a vraiment cet enjeu pour les étudiants, mais aussi pour nous professionnels. Je ne vais pas me représenter parce que, voilà, on s'est déjà dit beaucoup de choses ce matin. Pour cette présentation, ce qui m'avait été demandé, c'était d'expliciter un peu les principes fondateurs du contexte d'intervention des patients simulés, en identifiant les stratégies clés pour la formation des patients simulés à l'émotion. C'est noté dans le programme à haut risque, on a beaucoup discuté autour de ça, moi je préfère dire intense. Et discuter des bénéfices et des défis avec vous, de l'application des standards de pratique et de ce que je pourrais vous proposer pour le cas qui nous concerne, donc la formation à des situations émotionnelles intenses. Je ne sais pas si tout le monde était là ce matin, mais je vais passer assez rapidement à patient simulé sur les définitions. Patient simulé ou standardisé, je réinsiste, c'est des personnes sans formation particulière, mais qui sont entraînées, donc formées à simuler un vrai patient de manière reproductible, standable. Il faut que ce soit crédible. Dans une situation, on parle de patient simulé / standardisé. Ça, je dirais que selon les pays, ça change. Selon les contextes aussi, en formation, on a peut-être moins besoin de standardisation à tout prix. Donc, la partie simulation de l'émotion avec une certaine harmonisation, certes, toujours, puisqu'ils sont entraînés à simuler une situation en fonction d'objectifs pédagogiques. Donc, la façon dont on va exprimer l'émotion va être très différente pour un étudiant de première ou un étudiant de fin de formation, en fonction de ce qu'il est capable de mettre en œuvre au niveau de ses compétences relationnelles, communicationnelles. Et donc ça, c'est un élément important à prendre en compte pour le côté simulation. Standardisation, on y reviendra tout à l'heure. C'est encore quelque chose, je dirais, un autre enjeu, puisque ben, il y a la partie sanction, la partie examen. Et pour les étudiants, c'est un gros enjeu. Et à ce niveau-là, je dirais que l'équité de traitement, elle se fait vraiment, et la standardisation du jeu, ça a des répercussions pour pouvoir adapter à cette équité de traitement entre étudiants. Donc, c'est le côté reproductible et très fortement travaillé en formation. Je ne viendrai pas forcément là-dessus dans ma présentation, mais on l'abordera, vous verrez, sous forme de questions qui peuvent être relevées et qui, pour vous, dans vos contextes, peut être travaillées. Je pense que ce qu'a présenté Michel tout à l'heure sur, bah, par exemple, la colère, comment est-ce qu'elle s'exprime, de 0 à 10, c'est vraiment des outils qui sont très, très utiles pour pouvoir fixer exactement ce qu'on veut. Et dans un contexte de standardisation à tout prix, c'est très utile d'utiliser et la vidéo et ses échelles. Voilà, le patient simulé, c'est utilisé dans un contexte, on contribue dans un contexte d'enseignement, d'évaluation, il donne du feedback, il évalue les performances. Finalement, les domaines d'activité des patients, à travers ces définitions, j'aimerais y revenir, il y a le côté jeu, le côté acteur, on se met en scène, on intègre la vie d'un patient, il y a une mise en scène de ce patient. On va standardiser, harmoniser, on l'a abordé, quelques éléments de l'histoire du patient en fonction des objectifs pédagogiques, en fonction de ce qu'on aimerait pouvoir, en tant qu'enseignant, traiter avec les étudiants, débriefer avec eux. Il y a cette possibilité d'adapter le jeu. Même si on standardise, il y a aussi l'illusion de la standardisation. Je dis, une rencontre entre un étudiant et un patient simulé, elle restera unique. On peut préparer énormément de choses, on ne pourra de toute façon pas tout préparer. Alors des fois, les oreillettes, c'est intéressant. Après, il y aura la limite, parce que dans le sens où la relation, elle se fait pour ce qu'elle est. Et il y a de toute façon une adaptation de ce jeu qui se fera en fonction de ce qui se passe avec cet étudiant-là. Les patients simulés, même s'ils ne donnent pas de feedback, ils sont au service de la formation. Donc, je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'ils aient un certain nombre de connaissances sur les principes pédagogiques, sur vos programmes, qu'ils comprennent ce que c'est un objectif pédagogique, pourquoi on travaille cet objectif pédagogique à ce moment-là. Donc, tout ça, c'est distillé aussi dans la formation du patient pour qu'il puisse être pleinement au service de la formation. Et c'est ce qui nous intéresse. Bien sûr, pour donner du feedback, on développe aussi des compétences pédagogiques. Et c'est pas toujours évident que de pouvoir donner un feedback constructif, ça se prépare. Je reviens pas sur la différence entre simulé et standardisé. Après, tout ça et la formation des patients, il y a un gros enjeu, notamment pour les situations intenses, parce que on n'a pas tous la même base de données de patients ou d'accès aux patients simulés qu'elle-même. Il y a certains patients, on l'a vu, qui sont payés, d'autres sont bénévoles. Il y a des personnes tout venantes, il y a des acteurs professionnels, il y a des soignants, comme ça a été dit ce matin. Et donc, il y a différents profils. Et en fonction de ces profils, je dirais qu'il y a aussi une adaptation de la formation qui est essentielle pour qu'on puisse retrouver dans le jeu cette fraîcheur du patient à tout moment, même s'il répète le jeu sur la matinée, qu'il puisse entrer dans cette émotion de manière réaliste et crédible tout au long. Donc être patient simulé, ça ne s'improvise pas, il y a le jeu de scène. On a vu, on le disait ce matin déjà, le fait de travailler avec des acteurs, notamment pour des situations émotionnelles intenses. Eh bien, c'est des personnes qui ont été formées à entrer dans les émotions. Ils s'y sont vraiment frottés, ils ont pu les intégrer dans différents scénarios dans leur vie professionnelle. Donc ça, c'est un gros atout. Avec cette capacité aussi de ressortir, même s'il ne faut pas minimiser le risque, mais ressortir de l'émotion et remettre sur la posture neutre. Je dis, il ne faut pas minimiser parce que ça reste quand même des activités où on n'est pas sur scène. Le mur entre le public et la scène, il n'y est pas quand on est dans un jeu de rôle sophistiqué tel que le patient simulé. Et donc, les acteurs, ils ont aussi besoin de débriefing. Et j'ai entendu des expériences où justement, ce n'était pas évident de faire jouer un acteur, je dirais, toute la journée et puis ne pas le débriefer à la fin. Ça peut être aussi contre-productif, aussi pour un acteur. Donc attention, ne minimisez pas cet effet-là. Donc être patient simulé, c'est être acteur, entrer dans le jeu, pouvoir jouer cette émotion, la douleur, etc. Mais c'est être aussi au service de la formation, du développement des compétences cliniques. Ce cadre pédagogique, il est essentiel et c'est cette combinaison-là qui fera, je pense, une combinaison gagnante. Donc, placer au centre l'objectif pédagogique, le programme, développer ses compétences, associer le patient simulé dans ce processus, je pense que c'est ce qui donne vraiment une qualité aux activités que vous développez. Ça donne aussi la possibilité de pouvoir travailler en équipe. Enseignant et patient simulé, surtout si lui est formé à donner un feedback en tant que patient simulé. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la place. On parlait du rôle tout à l'heure avec Madame Albert, entre le psychologue, le médecin, le patient simulé. Bon, là, on ne parlait pas forcément feedback du patient, mais disons que c'est la même chose entre l'enseignant, quel que soit son background, et le patient simulé. C'est quel rôle prend chacun des deux participants. C'est pour ça que ce matin, j'ai énoncé que le patient simulé, pour moi, c'est un co-facilitateur, parce qu'il fait vraiment partie de ce cadre pédagogique et il est actif. Vraiment plus que comme un patient qui apporte son vécu, mais comme co-facilitateur. Quand on met en place une situation avec patient simulé, tout comme en simulation, il y a cette boucle que vous connaissez, où il y a la préparation. Et je dirais que le diable se cache dans les détails. Beaucoup de choses s'anticipent dans cette préparation. Et plus la préparation est mise en place, pensée, avec du temps, et où on se donne des bonnes conditions, meilleure l'activité sera. Il y a le briefing de l'étudiant sur la situation, mais aussi sur ce qu'est un patient simulé. Il y a le briefing du patient simulé, le briefing des évaluateurs ou des formateurs qui, dans notre contexte, se fait au dernier entraînement des patients avec les patients simulés. Donc, formateurs et patients simulés travaillent de concert pour pouvoir créer cet esprit de team. L'activité de simulation, après feedback des briefings, on en a vu un certain nombre, merci, des vidéos très intéressantes, pleines d'authenticité présentées. Ce moment de réfléchir sur comment va se poursuivre l'activité, on l'évalue. Hein, et puis, dans toutes nos activités, la place du déroulage du patient simulé. Comme je disais, ce n'est pas parce qu'on est forcément acteur ou qu'on a l'habitude de jouer comme patient simulé qu'on n'a pas d'émotion. Le bien-être du patient, l'accompagnement du patient, c'est vraiment essentiel. Chez nous, le déroulage, il se fait au niveau de ce qui s'est passé, au niveau vraiment de la performance du patient en tant que tel, pour que le patient puisse partir avec ce qui s'est bien passé, sur les compétences qu'il a bien développées, qu'il a su mettre en œuvre, etc. Puis des pistes aussi de réflexion et d'évolution par rapport à entrer dans le jeu ou donner du feedback. Et puis, il y a tout cet aspect émotionnel qui a été, on a parlé pour l'étudiant, mais aussi pour le patient simulé, de pouvoir l'aborder avec lui, pour voir quel est l'effet que ça a pu avoir avec lui, de pouvoir sortir du rôle petit à petit, et aussi par des échanges avec le formateur, mais aussi avec les autres patients, pour reprendre du recul et pouvoir repartir dans la vie courante en étant un peu plus allégé. Même si, il ne faut pas se leurrer, ça n'a, selon les jeux, et notamment quand il y a des situations émotionnelles intenses, ça laisse des traces. À cet effet, de plus en plus, et deux publications sont en cours sur ce sujet, l'utilisation de la relaxation ou de la méditation, c'est quelque chose que nous, que j'utilise et qui est aussi intéressante pour pouvoir un peu reprendre de la distance et comprendre aussi l'effet qu'a eu la situation sur la situation émotionnelle sur soi. Je ne sais pas comment vous travaillez, mais pour vous expliquer dans quel contexte, et ça c'est juste un exemple de session d'enseignement avec patients simulés. Nous on a des enseignements en petits groupes où les patients vont répéter les simulations. Et on a aussi des situations d'enseignement où le patient simulé va jouer peut-être 4, 6 fois le rôle. Et alors dans les Écosses, eh bien là où il y a un haut degré d'enjeu, les patients simulés vont travailler un certain temps, puis après, on va les changer. Donc, ça nécessite que nos patients, eh bien, ils puissent être reproductibles et fidèles à eux-mêmes, fiables dans le temps, par rapport au jeu, mais qu'ils puissent être aussi reproductibles dans le sens où plusieurs patients peuvent vraiment endosser le même rôle. On parle du patient interchangeable, de nouveau avec l'illusion qu'on peut tout standardiser. Mais disons que ça, c'est un élément important. Donc, ça veut dire que les patients doivent être au clair sur le choix des objectifs et que nous-mêmes, en tant qu'enseignants ou évaluateurs, on doit être tout à fait au clair sur le choix des objectifs et des critères d'évaluation. Il y a cette notion, en plus dans les écoles, de fiabilité, de reproductibilité, d'équité de traitement pour les étudiants. Ça, c'est un des gros enjeux et c'est une des raisons pour lesquelles on met en place ces écoles. Donc, et cette standardisation. Et donc, pour atteindre ça, je ne vois pas comment on pourrait le faire sans former les patients. Alors là, on parle du degré extrême, puisqu'on est vraiment dans des gros enjeux de l'examen clinique objectif structuré, mais dans un cadre de formation où on est, en tout cas au niveau pré-grade, avec des volets à plusieurs centaines d'étudiants, voire des fois un petit peu moins quand on est de bonnes conditions, il y a un besoin d'harmonisation de l'enseignement et donc une capacité à créer un travail de groupe, une collaboration, des standards, même s'ils sont plus ou moins flexibles, de jeu pour les patients. Est-ce qu'on joue la colère à 10 sur 10, je reviens sur ton exemple, ou on la joue à 3 sur 10? Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas les mêmes objectifs pédagogiques qui sont travaillés. Quelques stratégies de formation des patients simulés à l'émotion intense. Je dois dire, je vous présente un peu le résultat de nous, ce qu'on fait, mais également de toutes les collaborations que j'ai pu avoir avec des collègues de ASPI, avec Jan Yost, sur la mise en place de ces stratégies. J'aime beaucoup cette phrase de Brian Hodges, qui est en 2002, qui dit qu'en fait, pour être effectif en tant et compétent, performant en tant que patient simulé, eh bien, ça dépend vraiment du temps qui est protégé pour sa formation, et puis de leur sélection, de la qualité du recrutement et du screening qui précède. Donc on voit vraiment que cette notion de formation, elle est centrale. Un patient simulé, c'est un faux patient, et pour ça, il doit rentrer dans le jeu, mais c'est une vraie personne. Et quand on parle d'émotions intenses, eh bien, comme on disait, ça peut avoir un impact sur lui, mais ce qui se passe dans cette relation-là, elle sera toujours unique. Et quand on a une volée d'étudiants à former, comment harmoniser cette façon de faire, cette façon de pouvoir communiquer, entrer en relation avec l'étudiant. Donc, nous, on travaille toujours dans nos formations avec les patients simulés en petits groupes. Pour créer une communauté de pratique, pour créer des critères qui soient harmonisés entre eux et une autorégulation de manière d'exprimer l'émotion. Donc tout ça se construit, on est dans un processus de co-construction, dans un processus collaboratif avec les patients simulés. On arrive avec nos scénarios en tant qu'enseignants, cliniciens, et souvent ce qui se passe, c'est que la pertinence des questions des patients simulés, ben nous a fait un peu réviser, en tout cas pour moi, ma manière de travailler, c'est que les scénarios, en fait, on associe les patients simulés aussi dans leur conception. Évidemment, on les modèle au moment de l'entraînement, parce qu'on n'a pas pensé à tout en tant que clinicien. On a aussi notre propre perspective, même en tant que formateur de patients simulés, mais les patients simulés, ils sont extrêmement pertinents. Et comme le diable se cache dans les détails, ils arrivent toujours à nous relever des éléments sur lesquels on n'a pas pensé. Et ça prend toujours plusieurs années pour pouvoir stabiliser un scénario, pour pouvoir affiner au maximum l'enseignement. Donc, inclure un patient simulé qui est expérimenté dans l'élaboration du scénario, c'est aussi quelque chose qui est, que je trouve en tout cas très performant et qui permet aussi de réfléchir à ce statut que le patient simulé a, c'est-à-dire d'être un co-facilitateur, mais presque un co-enseignant. Quelques enjeux de la formation des patients. Simuler à des situations émotionnelles intenses, ben évidemment, rester réaliste dans la situation. Comme je disais, d'avoir une compréhension commune et partagée au sein des patients, mais aussi avec l'enseignant pour qu'on puisse être dans une culture commune par rapport aux objectifs, par rapport au produit final. Donc c'est un cadre qui se négocie, c'est une activité qui se co-construit. Adapter, ajuster le niveau de difficulté de la situation de jeu par rapport aux étudiants, donc ne jamais perdre ça paraît facile, mais quand on est dans la situation, des fois on perd un peu, hein, finalement au service de qui ça va être, on part dans pas mal de débats, ça questionne beaucoup, donc jamais perdre de vue cet objectif, l'objectif pédagogique, mais aussi à qui est-ce qu'il est dédié. Harmonisation de l'enseignement et esprit d'équipe, on vient d'en parler. Donc c'est vraiment un travail, je dirais, à chaque activité de patient simulé, notamment pour des situations émotionnelles intenses, c'est un travail d'équipe, on met en place vraiment un management de projet où on travaille dans l'interprofessionnalité, y compris le patient. Quelle place il a ? Finalement, c'est vraiment un partenaire d'enseignement. Il y a une conception, après ça dépend dans quelle manière vous inscrivez votre processus pédagogique, Pour moi, les patients simulés, c'est vraiment des partenaires de la formation, associés, actifs, et qui vont pouvoir être partie prenante aussi du développement de l'activité. J'insiste là-dessus. Un guide de l'éducateur ou du formateur de patients simulés pour former les patients à jouer des émotions. Je dirais qu'en gros, il y a deux étapes. Il y a la partie de l'analyse de la situation, l'analyse de ce qui est à jouer, sans parler du feedback. J'en parlerai pas pour la suite de cette présentation. Et là, les patients simulés et le formateur analysent le scénario ensemble, le lisent, le décortiquent, toutes les questions viennent. Nous, on prend vraiment presque une période, voire une heure, pour pouvoir, des fois même plus, le scénario, pour qu'il puisse être explicité et qu'il puisse être compris déjà au niveau intellectuel, puis commencer à travailler cette notion de logique émotionnelle. Puis après, évidemment, il y a la partie jeu, jouer, jouer, jouer. On travaille avec le patient simulé pour le connecter à ses propres émotions, au contenu du scénario, bien sûr, pour que ce soit crédible et que ça corresponde à ce que vous visez. Et on utilise différentes stratégies en fonction des différents patients simulés. Voilà, il y a des patients qui rentrent plus facilement dans l'émotion, il y a des patients qui travaillent plus avec l'image mentale, il y en a d'autres, c'est plus avec le son, d'autres avec... des fois, on utilise aussi beaucoup la respiration. Enfin, voilà, il y a différentes manières d'entrer et d'apporter, je dirais, cette émotion dans l'intégration par le patient. Les étapes de formation du patient simulé, c'est utilisé dans différents contextes, aussi pour tout ce qui est de la simulation hybride. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'a apporté Debra Nestel, parce que ça permet de pouvoir un peu structurer cette formation qui se fait en plusieurs sessions. Pour pouvoir travailler l'émotion, je pense que ça nécessite de pouvoir prendre le temps d'intégrer. Et on voit les patients d'une séance à l'autre. En général, il y a 2 à 3 séances de formation de 2h30 avec 5-6 patients. Et ça permet que chacun puisse être acteur, c'est-à-dire jouer, poser ses questions, mais aussi recevoir du feedback des autres, aussi être observateur, et donc petit à petit intégrer ce qui se fait. L'étape 1, c'est vraiment cette analyse et cet accord entre les patients simulés et formateurs sur la personne à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on discute pendant cette étape? C'est la personnalité du patient. C'est qui cette personne? Et puis, elle fait quoi dans la vie? Quelle importance ça a? Parce que plus on adapte à la personne qui joue le rôle, plus il aura cette possibilité de pouvoir dérouler de manière authentique la situation. Donc tout ça se négocie, je dirais, selon l'objectif pédagogique, pendant la formation. Est-ce que l'insertion sociale, ça doit être jeune cadre dynamique? Si c'est le cas, alors qu'est-ce que c'est? Ou bien alors est-ce qu'on peut le jouer différemment? Et tout ça, ça a vraiment un impact, parce que pour le patient, c'est vraiment entrer dans la vie de ce patient. L'insertion sociale, etc. Donc tout ça se démultiplie à souhait en fonction de l'univers du patient à jouer. Et puis, quelle est la journée type d'une personne, de cette personne? Pas en tant que patient, vraiment en tant que personne. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Comprendre à qui on a affaire, dans quel pot est-ce qu'on rentre? Puis après vient la notion de symptôme, la notion de patient, l'impact sur la vie, et puis toutes les attentes que le patient pourrait avoir par rapport à la situation d'apprentissage. L'étape 2, c'est parler vraiment de ce cadre pédagogique. Donc au début, on était vraiment dans entrer dans la peau, être dans le rôle, d'accord? On se met en scène. Mais la notion de situation d'apprentissage, elle est vraiment essentielle. On est au service d'objectifs pédagogiques, donc quelle est l'activité? Quels sont les étudiants? À quel niveau? Quelles sont les expériences passées avec un programme de patients simulés? Est-ce que c'est la première fois qu'ils rencontrent un patient simulé? Quelles ont été les différentes expériences qu'ils auraient pu vivre? Et puis, des fois, dans certaines formations, il y a même des étudiants anciens, aînés, qui viennent dans la formation pour parler aussi de ces enjeux-là. Quels sont les objectifs de cette situation d'apprentissage, le déroulement pédagogique? Est-ce que ça va être une situation de groupe, comme j'ai pu vous montrer l'exemple, ou est-ce que ce sera des rencontres individuelles? Ou est-ce qu'il y aura dans ces rencontres individuelles un formateur, un enseignant, qui va intervenir? Tout ça est décrit pour que le patient puisse non seulement se préparer à ce qui va se passer, mais aussi prendre sa place et se légitimer dans la place qu'il va prendre dans ce cadre de formation. La durée de la simulation, puis aussi il y a une réflexion qui se fait des risques. Des risques pour le patient simulé par rapport à son propre bien-être, qu'est-ce qu'il va mettre, parce que vraiment, ils vident leur trip, donc quelque part, quel est l'enjeu pour moi? Et ça, je pense que c'est important aussi, dans cette collaboration que vous avez avec le patient, de pouvoir être à jour sur ce qu'il peut expérimenter si vous voulez le faire durer dans votre programme. Et pour les étudiants, la même chose. Au niveau du contexte d'apprentissage, les croyances du patient, il croit en quoi ce patient? Ses motivations, ses attitudes, ses attentes par rapport au patient, par rapport au médecin, par rapport au soignant. Son souci, qu'est-ce qu'il vit? Quels sont également, si le médecin ou le soignant ne répond pas en fait à ses besoins, comment est-ce qu'il va, il va vivre les choses? Ou bien alors s'il y répond, quelle attitude il va prendre? Donc tout ça se discute pendant la formation et s'ajuste en fonction des discussions. La nature de la douleur. Ça, évidemment, que c'est quelque chose aussi au niveau physique, hein, sur l'utilisation de ces échelles. C'est quoi une douleur à 5? C'est quoi une douleur à 7? Comment est-ce que je l'exprime? Elle est où? Comment, pour qu'on soit complètement crédible. La fréquence, comment est-ce qu'elle apparaît, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui soulage la douleur. Pour que ce soit complètement réaliste, c'est des points sur lesquels on doit être très au clair avec les patients. La posture physique, nous on va jusqu'à discuter, notamment quand on est dans des situations de standardisation aux examens, on sait exactement comment il s'assied sur la chaise, comment il se tient, est-ce qu'il va regarder le médecin ou l'étudiant quand il rentre ou non. Comment est-ce qu'il respire, comment est-ce qu'il prononce ses phrases, est-ce que ça va être fort, plutôt bas, voilà, ou est-ce qu'il sera entrecoupé par son souffle, etc. Donc tout ça est standardisé. Et puis il y a toutes ces techniques issues du théâtre qui, je pense, sont encore bien sous-utilisées dans le domaine de la simulation, de comment impliquer le patient dans l'émotion. Certains, on disait, pourraient travailler plus avec des images mentales. Comment est-ce qu'ils peuvent se référer? On utilise beaucoup de vidéos où certains nous parlent tout à coup de livres qu'ils ont eus ou de personnes qu'ils connaissent pour pouvoir les connecter à leurs propres émotions. Ou des fois, on part carrément de la posture physique pour voir ce qu'ils ressentent au niveau émotionnel, les sensations dans le corps, pour les intégrer dans cette émotion. Et puis après, dans l'arène, on joue, on prépare. Toutes les situations sont jouées, donc tous les patients jouent ces situations, et il y a un débriefing sur comment ils se sont sentis, comment on fait avec les étudiants, sur comment ils se sont sentis, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées. Puis après, on ouvre la discussion avec les autres patients et le formateur pour travailler cette harmonisation du jeu de l'émotion. Un point important, et je terminerai là-dessus, c'est le bien-être des patients simulés. Vraiment de screener, de recruter les patients pour la situation de jeu, et de prendre les bons patients, c'est vraiment essentiel. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que quand on a un jeu, annonce de mauvaises nouvelles, nos patients, on les connaît parce qu'on les suit, mais on ne les voit quand même pas tous les jours. Donc du coup, quand on les appelle, on leur parle de la situation de jeu. On va leur expliquer quel sera l'enjeu émotionnel à jouer et à mettre en scène. Et on donne aussi la possibilité aux patients de toujours refuser une situation de ce type sans que ce soit préjudiciable par rapport à leur engagement futur. Pour pas qu'il ait de pression à accepter et qu'il puisse donner le meilleur de lui-même dans un cadre sécurisé. Toujours sécurité du patient. Après, il y a tout le bien-être du patient, il est dépendant du combien de temps le patient va jouer, le nombre de répétitions. Nous, on avait justement le suivi d'un deuil d'un patient suite à une annonce, enfin l'annonce d'un deuil d'un patient, et on a certains de nos patients qui ont dû jouer toute une journée. Et voilà, c'est pas anodin du tout. Donc après, déroulage, débriefing. Et nous, on essaye d'éviter ce type de situation. En général, ils jouent 4, 5 sessions, donc 5, avec 5 étudiants, puis après, on arrête. Et puis, on change de patient. Donc ça nécessite des rotations entre les patients simulés. Aussi, un certain nombre de patients, puisqu'ils vont devoir s'interchanger, hein, donc informer. Et puis... On a aussi un impact sur, avec vraiment les personnes qui gèrent le curriculum, sur le temps de pause. Les patients, elles ont besoin aussi de souffler entre deux étudiants et aussi dans la matinée, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir ce suivi. Donc, c'est quelque chose sur lequel, quand il y a des émotions intenses à jouer, qu'on met en place. La supervision, qui va venir les superviser? Qui va venir leur parler de leur ajustement? Parce qu'ils sont très avides de retour, de feedback par rapport à leur performance. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on fixe d'avance. Et puis, si c'est le formateur et non le formateur de patients simulés, ça arrive. Parce qu'un formateur de patients simulés, on ne veut pas être partout en même temps. Cet esprit de team et que le formateur connaisse le patient avant même la matinée, c'est quelque chose de très porteur, parce que ça permet vraiment de pouvoir travailler cette relation et donc le côté aussi émotionnel. Et puis, on disait le déroulage. Voilà. Les standards de bonne pratique, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je vous invite à vous référer. Il y a de précieux renseignements sur justement travailler avec un acteur, avec un professionnel de santé ou un patient tout venant, sur l'aspect sécurité et les enjeux qu'il peut y avoir, des pistes aussi pour calibrer vos formations. Et puis, j'ouvre à la discussion les estomacs ne sont pas encore trop vides. En tout cas, c'est avec grand plaisir que j'échange avec vous maintenant ou après, si jamais vous avez aussi mes contacts. Merci beaucoup de votre écoute.
On va pouvoir autoriser seulement une question, parce qu'on est déjà un petit peu en retard sur le programme.
Bonjour, je suis Pascale Mancheron, donc formatrice au Centre de simulation de Rennes. Et je vous remercie pour votre intervention, parce que le propos, il est passionnant, il répond à des questions, et du coup, il en ouvre aussi d'autres. Et ma question était en lien, justement, avec ces situations émotionnellement intenses, et notamment au niveau du feedback. Et du coup, vous disiez, en fait, c'est à la fois un faux patient, mais c'est aussi une vraie personne. Et comment on peut retrouver, en fait, cette position neutre dont vous parliez par rapport au feedback? Et est-ce qu'il y avait une temporalité à respecter? Enfin, je me dis que si je suis faux patient et que je sors, en fait, d'un scénario comme ça, qu'il faut d'emblée aller sur le feedback. Voilà, je voulais savoir s'il y avait une temporalité que vous respectiez ou qui était différente des autres situations.
C'est vrai que je n'ai pas pu aborder cet aspect feedback. On n'a pas tout le temps qu'on vous laisse ce matin. Je me réfère beaucoup au travail qu'a présenté Madame Albert plus tôt dans la matinée, je pense. Peut-être en tant que psychologue, mais je pense que c'est aussi important pour tout le monde, c'est d'avoir un cadre et d'être le garant du cadre. Et de poser un cadre qui soit bienveillant pour justement laisser aussi cette émotion un peu s'évacuer. Donc, et ce cadre qui assure le cadre de sécurité. Donc, on sait, c'est souvent... préconisé, c'est que le feedback du patient, s'il est oral, il se fait souvent à la suite de la simulation, puisque le débriefing suit, et puis qu'on dit que le fait soit fait de manière immédiate, ce que montre petit à petit la littérature, c'est que ça a un bon impact au niveau formation de l'étudiant, développement de compétences, même si il y a encore de la littérature qui manque à ce sujet. Donc nous, on est souvent dans ce processus-là, avec l'enjeu justement de remettre la position neutre chez le patient. Donc on a développé des stratégies qu'on entraîne vraiment de manière systématique pour familiariser le patient à ce cadre-là. C'est que déjà, comme pour nombre de simulations, le débriefing et le feedback ne se fait pas sur la situation de jeu, elle se fait à distance. Des fois, on n'a pas la possibilité d'avoir deux salles différentes, donc, mais il faut qu'il y ait un changement, en tout cas, d'espace. Et souvent, s'il n'y a pas de changement de salle, nous, on remet tout simplement, hein, c'est très physique, c'est visuel, un paravent. Pour dire ça, c'était l'espace de jeu, puis maintenant, on est dans un autre espace. Ce qui nous permet aussi, avec tout ce petit agencement et réorganisation de la salle, de prendre un peu de distance, parce qu'on bouge. On se remet en action, et puis on se réinstalle dans un autre setting. Donc ça, je pense que ça permet, en tout cas, c'est ce que nous disent nos patients, hein, on ne l'a pas évalué, donc là, c'est vraiment de la bonne pratique, enfin, de la bonne pratique dans le sens où, évidemment, je ne l'ai pas construit toute seule dans mon coin, c'est suite aux échanges et les collaborations avec des collègues de ASPI qu'on a mis en place ce type de faire, mais je n'ai pas de données scientifiques à vous présenter aujourd'hui. Donc, voilà, donc ça, c'est la première chose. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant d'instaurer, c'est que l'étudiant, tout comme le patient, avant même qu'il donne le feedback, il prend un temps pour écrire. Donc, quelque part, reprise de distance, on projette sur le papier. Et puis, en plus, ça aide à structurer ce qui va se dire dans un temps qui reste restreint. Et aussi, ce qu'on a commencé à instaurer pour l'annonce de mauvaises nouvelles, c'est d'utiliser la respiration et puis quelques techniques de méditation de pleine conscience. Ce qui permet un petit peu de reprendre son souffle pour pouvoir entrer dans ce moment de formation, ce moment de feedback. Qui se fait sous forme d'échange. Voilà, quelques pistes. Je ne sais pas, en tout cas, tout à fait disponible pour discuter de vos propres pratiques et avec grand plaisir même, et grand intérêt.
Merci. Eh ben, je suis vraiment désolée qu'on n'ait pas plus de temps. Si vous avez envie, vous avez bien entendu que Karine et je pense les autres orateurs sont disponibles pour toutes les questions, notamment sur l'heure de la pause déjeuner. On va remercier vraiment vivement tous les intervenants de la matinée. C'était très riche. On a pu vraiment bien aborder ce sujet qui, finalement, qu'on ne met pas forcément toujours à l'honneur, qu'est le patient simulé. Donc, merci à tous et puis à tout à l'heure.